Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Lors du 28e Festival du cinéma britannique et irlandais à Nîmes, il y avait une grande nouveauté, c'était une sélection de films sur les Noirs en Grande-Bretagne, Black in Britain, et Nicolas Botti, qui avait fait la sélection des films, avait eu un empêchement, ne pouvait pas être là, et nous avons la chance donc de l'avoir aujourd'hui au micro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sylviane.
Alors, déçu bien sûr de ne pas être venu, mais...
Oui, très déçu.
Très déçu. Mais bon, c'est les obligations tristes. Donc, vous aviez fait la sélection sur les films concernant les immigrés en Grande-Bretagne. Vous aviez le choix d'entre combien de films ?
En tout, je l'avais sélectionné environ 80. Donc après, oui, il a fallu réduire ça à 6-7 films, je crois qu'on a montré finalement dans le festival. Donc oui, c'était un choix
compliqué,
assez cornélien.
Alors, quel était votre fil directeur ? Pour le choix.
En fait, ouais, cette génération d'hommes venus, comment dire, des Caraïbes, au début de la Seconde Guerre mondiale, quand en fait le gouvernement anglais encourageait l'immigration, parce qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire et il manquait de main d'œuvre. Mmh. C'est ce qu'on a appelé plus tard la génération Windrush, du nom d'un de ces navires qui a amené environ 450 immigrés des Caraïbes en 1948.
Ah, en
1948. Et donc, ouais, ça date, oui. Et, mais finalement, cette minorité noire a été très peu représentée. Il y avait très peu de voix par rapport aux autres communauté, surtout la communauté qui vient de l'Inde et du Pakistan, mm. qui est encore aujourd'hui deux fois plus nombreuse que la communauté noire. Et là, je parle de communauté noire, ceux qui sont d'origine africaine et ceux qui sont d'origine donc des Antilles. Et la part des Antilles commence à baisser de plus en plus. Mm. Donc en fait, quand on parle de la communauté noire anglaise, on parle de deux communautés britanniques, on parle de deux communautés, voire même plus, c'est-à-dire ceux qui viennent des Caraïbes et ceux qui viennent d'Afrique. Et c'est déjà deux Nigeria en tête. Oui. C'est déjà deux communautés assez différentes.
C'est différent.
Voilà. Donc il y avait une richesse et cette richesse a mis du temps à être transposée à l'écran par rapport à la représentation des immigrés d'origine asiatique.
Alors, je vois que le premier film est de 1940, le dernier 2023. Donc, vous avez essayé de couvrir, en fait, un peu l'histoire de ces immigrés. Comme le festival est aussi britannique et irlandais, est-ce que l'Irlande a été concernée par ces immigrations ?
Alors, non, beaucoup moins, parce que pour la bonne raison, c'est que l'Irlande a traversé au XXe siècle et au XIXe siècle, de toute façon, des périodes de crise énormes. Donc, elle a attiré beaucoup moins l'immigration que la que le reste de la Grande-Bretagne, donc, et que l'Irlande. Mmh. Donc, du coup, je vous ai dit, c'est une immigration là qui s'est faite surtout après la Seconde Guerre mondiale. Non, il n'y a pas eu d'équivalent, en Irlande. Enfin, pas à ce point-là, en tout cas.
Et ils sont plutôt localisés dans la région londonienne ou plutôt dans les régions de Mines où il y a une...
Ah non, c'est vraiment là, c'est vraiment plutôt Angleterre et plutôt Londres.
Et ouais. Plutôt Londres, oui.
Effectivement, c'est-à-dire là, on a besoin le plus
de main-d'œuvre.
De main-d'œuvre, en fait.
Et il y a des quartiers donc entièrement noirs dans la banlieue londonienne.
Bon, maintenant c'est un peu plus mélangé, mais par exemple, il faut savoir que Nottingham, non, c'est Nottingham, excusez-moi, Nottingham, c'est autre chose. Et donc, qu'un quartier qui est connu aujourd'hui grâce à la comédie romantique avec Hugh Grant, tout le monde connaît, Notting Hill. Mais aujourd'hui, c'est un quartier très riche, mais c'était un quartier très pauvre, en fait, dans lequel se sont amassés justement les immigrés venus d'Afrique ou des Caraïbes. Donc, oui, c'était un endroit où il y avait beaucoup. D'ailleurs, il reste le carnaval de Notting Hill, qui justement retrouve un peu. Se retrouve un peu avec son passé en fait, mais c'est vrai que Notting Hill a beaucoup changé depuis les années 50, les années 60, la période des émeutes et voilà tout ça, toute la tension en fait qui a fini par monter quand on n'avait plus besoin de cette main-d'œuvre en Angleterre et que la société était en crise, donc du coup tout à coup ils n'étaient plus du tout les bienvenus.
Et alors, ils ont fait quoi, ces immigrés? Ils sont restés et ils se sont paupérisés. Il y en a qui sont repartis chez eux.
Oui, tout à fait. Disons que c'était très dur de retrouver du travail. Donc, ils avaient beaucoup de racisme qui a monté énormément. Et il y a eu des émeutes dans les années 50 et 60, justement, assez violentes, où des personnes d'extrême droite faisaient des. Voilà, allaient dans
Des
le quartier
descentes, oui.
pauvre et commençaient à taper sur tout le monde.
Donc, en fait, le cinéma, je vois les dates des films que vous avez choisis, 1940, 1951, 1967, 1980, 2020, 2023. Donc, il y a une volonté de remettre en avant, en fait, la mémoire de ces minorités.
Oui, voilà. C'est encore une fois, c'est une mise en valeur de cette mise en lumière de cette population qui a été très graduelle et donc ça fait très lentement. Et en fait, voilà, vous voyez le premier film avec un noir en tant que protagoniste principal, ça date de 1936, donc avant la Seconde Guerre mondiale. C'est Song of Freedom avec Paul Robeson, qui est un militant des droits de l'homme, enfin des droits des Noirs aux États-Unis à l'époque, qui est aussi acteur, qui est excessivement connu à l'époque. C'est une grande star parce qu'il a une voix magnifique. Et donc, il fait des concerts dans toute l'Europe et dans tout le monde entier.
C'est le porte-parole de sa minorité.
Oui, complètement. Oui. Il a été boxeur, il a fait tous les métiers possibles et imaginables. Et c'est vraiment un grand monsieur de la communauté afro-américaine de l'époque. Et
Et je vois
évidemment, il a
qu'on.
commencé en tant qu'acteur aussi à Hollywood. Mais il faudra attendre justement sa venue en Angleterre dans les années 30 pour que il puisse enfin avoir des premiers rôles qu'on
Oui.
lui refusait aux États-Unis.
Alors, je vois qu'il est aussi l'acteur principal de The Proud Valley, qui est de 1940.
Ouais.
L'affiche est très belle, hein, je trouve.
Oui, bah c'est un film excessivement important à la fois pour l'Angleterre, hein, enfin pour la Grande-Bretagne, puisqu'il va marquer effectivement un mouvement déjà du drame social qui est encore assez peu. Il n'y a vraiment que quelques films à l'époque, donc c'est un film de 1940, on est au début de la guerre, et c'est un drame social qui se passe en Pays de Galles. Pareil, le Pays de Galles, personne ne tourne au Pays de Galles à l'époque. Et là, en fait, ça raconte l'histoire d'un marin afro-américain qui débarque en Grande-Bretagne, il cherche du travail. Et on lui dit qu'il y a des mines comment dire, au Pays de Galles, et donc il s'y rend pour essayer de trouver du boulot. Et là, il est repéré dans un petit village par le responsable d'un chœur de masculin, de chant. Et donc, on l'embauche, on lui dit « Ok, tu viens chanter pour notre chorale et en échange, eh ben, t'auras un boulot dans la mine. »
Ah, d'accord.
Et c'est vraiment un très beau film, un très beau drame social de l'époque. Tout à fait, ben, c'est produit par Michael Balcon, donc c'est tout à fait dans l'esprit des histoires Ealing, mais c'est aussi un drame social, enfin très en avance sur son temps, où on montre la vie des mineurs d'une façon très réaliste. Et Paul Robeson, en plus, lui, est vraiment tombé amoureux du Pays de Galles.
Oui.
Et par la suite, pour faire des concerts et tout ça, ça a été une très grande aventure humaine également. Mais du coup, c'était... C'est vraiment, encore une fois, dans le cinéma mondial de l'époque, avoir un homme noir en premier rôle, c'est, voilà,
exceptionnel.
C'est complètement incroyable.
Donc on va écouter un petit extrait de The Proud Valley.
Paul Robeson had still another career on the concert stage. It happened almost by accident. Back in 1924, he was rehearsing the last act of The Emperor Jones, and the script called for Jones to exit, hands in his pocket, whistling a tune. Robeson said he couldn't whistle. The director said, well, hum, or sing, if you want to.
Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, this day let it be known
that
God, and that I am thy servant, Lord God of Abraham. Hear, O hear me, Lord, and answer me.
Alors, le second film que vous aviez sélectionné, c'est Pool of London, Les Trafiquants du Dunbar de 1951. Alors là, c'est un thriller.
Oui, tout à fait. C'est un thriller et on trouve donc réalisé par Basil Dearden, qui, à l'époque, réalise pas mal de films sociaux avec une conscience sociale. Donc là, c'est un film qui est un thriller donc, sur le marché noir et la contrebande dans l'Angleterre, dans Londres de l'après-guerre. Mais c'est également la première fois qu'on voit à l'écran un acteur qui restera un peu symptomatique, enfin qui sera vraiment un symbole de la représentation des Jamaïcains, de la minorité noire en Angleterre, c'est Earl Cameron, qui est mort il n'y a pas longtemps, à 102 ans, je crois.
À 102 ans.
Mais qui, justement, a participé à pas mal de films, dont deux réalisés par Basil Dearden, où, justement, c'est l'un des premiers visages à représenter cette communauté, parce que rappelons que Paul Robeson, c'est un Américain. Mmh. Donc là, c'est bien un
Britannique.
Un immigré.
Britannique. Si on fait en chronologie, on passe à Two Sir With Love, traduit Les Anges au Poing Serré de 1967. C'est toujours là, c'est un professeur. Et là, il y a Sidney Poitier. Donc, c'est vraiment l'acteur le plus connu à l'époque.
Oui, donc un acteur américain, donc très célèbre, mais qui, justement, je crois que c'est la même année qu'il fait le film Devine qui vient dîner ce soir.
Donc,
Voilà. Mm-hmm. Et donc, qui là marque un tournant dans le cinéma américain, mais en fait, ça fait longtemps que dans le cinéma britannique, on représentait un peu les Noirs de façon, comment dire, assez frontale. Enfin, voilà, en expliquant les problèmes. Il y a un film qu'on n'a pas pu montrer, c'est Flame in the Street de 1961, dans lequel il joue également Earl Cameron. Mais voilà, qui vraiment s'attaquait aux problèmes d'une façon. Là, frontal. Vraiment, de très frontal, et justement, qui parle des émeutes raciales. Mais revenons donc à Sidney Poitier. En fait, il avait déjà tourné en 51 pour un studio britannique, qui était le premier film à parler de l'apartheid, qui s'appelle Cry the Beloved Country, qui est une production anglaise de Zoltan, qui est réalisée par Zoltan Korda, sortie en 51, et tourné en Afrique du Sud, en partie en Afrique du Sud.
Est-ce que ces films est-ce que ces films avaient du succès en Angleterre quand ils sortaient? Est-ce qu'ils étaient bien vus, enfin?
Oui, oui, c'était des grosses productions, surtout si on parle de Cry the Beloved Country, le film sur l'apartheid, c'est une très grosse. Voilà. Et To Sir With Love, oui, en 67, clairement, les Anglais commencent à être habitués à voir des Noirs qui viennent des USA ou des Caraïbes ou d'Afrique dans des rôles principaux. En plus, bon, ben voilà, Sidney Poitier était déjà connu. On le retrouve ici, effectivement, dans le rôle d'un prof face à une bande de jeunes délinquants à Londres, dans l'est de Londres, qui est un quartier populaire. Voilà. Et donc, là, c'est un peu la confrontation assez typique. Hein, c'est le film du professeur charismatique qui réussit à s'imposer face à ses élèves. C'est un joli film, voilà, mais c'est vrai que... En fait, ce que je voulais te montrer avec ce film, c'est un peu la banalisation, justement, de la représentation du noir dans le cinéma britannique. C'est pas un film d'une originalité incroyable, mais là, la couleur de peau, elle devra pratiquement accessoire, quoi.
D'accord.
Ça aurait pu être joué par un blanc.
Oui. C'est plus le
thème, en
fait. Ça
n'aurait pas forcément changé grand-chose.
Alors, on passe dans les années 80 avec deux films, avec Babylone en 1980 et Burning an Illusion de 1981. Et je vous propose qu'on écoute la bande-annonce de Babylone.
May I drink peace to the eye, Rastafari, one love.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Nicolas Botti, notre spécialiste du cinéma anglais et irlandais, qui a un site, cinemaderien.fr, mais vous avez aussi un autre site pour tout le reste du cinéma.
Oui, cinéma de tout.
C'est Ima de tout. Alors Babylone, 1980, c'est l'ère Thatcher.
Alors oui, c'est un film important qui est dans la continuité du film Pressure de 75 qu'on avait montré l'année dernière, qui était réalisé par Horace Auvé, qui était le premier réalisateur noir de l'histoire du cinéma britannique. Donc, et il s'intéressait, ce que va faire Babylone également, à la communauté, justement, qui doit affronter la pauvreté, le racisme, avec le reggae un peu en toile de fond également, surtout dans Babylone, justement. Et reggae qui permet à cette génération de retrouver un peu leurs racines. Voilà. C'est vraiment, et c'est pareil dans Burning an Illusion qui, de 81 qu'on a également montré. Là, c'est à travers le portrait d'une femme, ce qui est assez rare généralement, c'est toujours
des hommes.
des hommes qu'on montre. Et là, c'est l'histoire d'une femme justement qui, elle veut s'intégrer. Elle comprend pas pourquoi son copain, il joue toujours la carte du racisme et tout ça. Elle prend ça pour une fausse excuse. Et en fait, elle va bien voir face à son expérience personnelle qu'elle-même n'est pas malheureusement à l'abri du racisme, de la violence raciale à son encontre. Les années 80, les années 70 sont vraiment des périodes de crise en Grande-Bretagne. Donc ça devient d'autant plus violent en termes de racisme et tout ça. Et c'est des films comme Burning an Illusion et Babylone justement en parlent.
Alors, nous finissons avec deux films qui sont des années 2020 pour Rox et 2023 pour White Nanny, Black Child, Nourrice Blanche et Enfant Noir. Alors, on va faire chronologiquement. Rox, c'est dans l'East London, on parle toujours de cette région londonienne, et là, on a une jeune fille. Donc, on a eu surtout des hommes, mais on a eu une femme, et là, on a une jeune fille.
Oui, et c'est un film qui... également est d'abord porté par de très bons acteurs. C'est essentiellement effectivement les portraits de la jeune fille, mais également de ses amis. Donc il y a le côté du drame social à la Ken Loach, on va dire.
Oui, j'allais vous dire, ça me fait penser à Ken Loach. Voilà.
Oui, tout à fait. Oui, c'est clairement du cinéma social où on montre la réalité de la vie de cette jeune fille, donc avec ses amis. Alors justement, si je m'en rappelle bien, mais je peux me tromper, donc je sais qu'il y en a qui viennent du Bangladesh. Je crois que sa meilleure amie, elle vient du Nigeria justement, oui. Et elle est descendante. Si je m'en rappelle bien, donc des Caraïbes. Voilà. Donc
oui,
ça
donc
montre
ce melting pot.
Ça montre à travers les. Oui, le melting pot de et à la fois le manque d'avenir pour ces jeunes et la confrontation, pareil. Mais là, c'est plutôt du racisme social. Voilà. Mm. C'est vraiment effectivement, on est plutôt dans le film social que.
Que dans le film politique.
Voilà, oui. En fait, là, le Jamaïcain devient juste, et le noir vient juste une partie, du racisme social, en fait. Il vient une victime, et parmi d'autres, avec également d'autres populations.
Mais c'est des films toujours très sombres, toujours sinistres, où il y a des moments tout de même d'humour, de joie, de musique.
Oui, dans tous ces films-là. Mais non, c'est vrai que bon, ben voilà, ça parle du quotidien et le quotidien à l'époque
n'est pas drôle,
fabuleusement optimiste. Quoi. Mm. Mais il y a quand même quelques films, des comédies, qui sont plus légères. Mais en fait, il y a beaucoup de films qui sont produits par cette communauté. Aujourd'hui, j'en ai trouvé, c'est la communauté, la minorité nigériane, des films que j'ai pu trouver en fond de catalogue sur Amazon UK, qui ont jamais sorti en salle et tout ça, qui sont des films intéressants, qui parlent de la réalité de ces communautés, en fait. Alors, sinon, vous avez... pour rester dans les années 70, parce que vous me demandez si tous les films étaient
sinistres,
tristes, un peu... Il y a un film qui s'appelle Black Joy, qui est un film des années 77, qui est un film très drôle, voilà, Alors, il y a toujours un peu de social, forcément, parce que vous parlez d'une communauté qui est une minorité, qui subit des choses. Mais parfois, c'est effectivement traité avec un peu plus d'espoir et aussi qui font transparaître mieux aussi. Le reggae, c'est pas forcément une musique, par exemple, qui est très négative. Donc, il y a aussi ces moments de communauté assez forts à travers la musique, à travers les choses, la nourriture aussi, ce genre de choses qui font qu'une communauté a une certaine unité, en fait.
Alors, le dernier film est un documentaire de 2023. Le réalisateur, hein, c'est Andy Mountcastle, s'intéresse au sort de 70 000 enfants nigériens qui ont été élevés officieusement par des familles britanniques blanches entre 1955 et 1995. Ça fait penser à le cas en France des enfants de Bré qui ont été comme ça importés presque de force.
C'est une réalité, mais effectivement, qui n'avait pas été forcément très bien documentée. Et donc, ce documentaire a l'avantage de mettre en lumière une réalité peu connue, en fait. C'est vrai qu'à part dans ce documentaire, j'en avais jamais entendu parler.
Les enfants de la Creuse, ça y est, fait... ça me revient. Je voulais parler le documentaire Les enfants de la Creuse pour la France. Donc, on fait un peu le parallèle. Okay. Alors, j'ai vu que c'était avec les mâles collaborations du British Council. Donc, oui. Vous nous avez proposé un très beau panel. Vous-même, vous continuez de vous intéresser plus spécialement à cette question
Oui, effectivement, je trouve que c'est la représentation de cette communauté... dans le cinéma et globalement sur les écrans britanniques, parce que là on a parlé que de cinéma, mais il y a eu des séries télé, il y a eu des sitcoms aussi qui sont très drôles sur cette communauté. Donc effectivement, et encore une fois, c'est une communauté qui était moins exposée que la communauté asiatique. Donc on en a beaucoup moins parlé. C'est très intéressant de voir justement les évolutions de sa représentation à l'écran. D'autant plus que quand on parle de communauté noire, c'est très restrictif parce que vous avez vu à travers les films représentés que ça pouvait être aussi bien des Africains que des gens venant des Caraïbes que aussi des Afro-Américains. Et c'est ce mélange-là qu'on retrouve sur les écrans britanniques.
Alors l'an prochain, je pense qu'il y aura une suite sur ce Black in Britain. Donc merci Nicolas de commencer à travailler sur la programmation de l'an prochain. Merci à vous et je rappelle votre site cinemaderien.fr pour le cinéma britannique et cinemadetout.fr pour tout le reste. Merci Nicolas.
Merci à vous. Au revoir.